Transmission now. Transmission.
Morey.
Morey.
Live.
Avec Dominique Morey.
Oui, merci.
Live.
Radio X.
Il est un péquiste en voie de disparition et on a la chance de lui parler. Joseph Facal, allô, comment ça va?
Bonjour, M. Morey, comment allez-vous?
Très bien, vous-même. Vous êtes en voie de disparition. Vous êtes en voie de disparition. Il n'y en a pas beaucoup comme vous au PQ. À moins que vous puissiez revenir, peut-être. Peut-être que c'est le début d'une démarche.
Non. Ah, non, c'est franchement. Pas le début d'une démarche. Mon Dieu, péquiste. D'abord, donnez-moi, s'il vous plaît, l'occasion de bien préciser que je n'ai plus de carte de membre, je ne finance pas, parce que je trouverais évidemment un petit peu bizarre d'être payé pour donner des opinions dans le journal et en même temps d'avoir une carte de membre d'un parti. Non, c'est pas le cas. Cela dit, oui, bon, je garde mes sympathies de toujours. Maintenant, bon, quand vous dites que je suis une espèce en voie de disparition, j'admets que je vieillis, j'admets ça, ouais, mais j'espère que j'ai encore quand même quelques bonnes années devant moi. Là.
Je pense que oui. OK, M. Facal, vous êtes lucide encore? On se souvient de ça, votre sortie sur les lucides.
Je suis vraiment content que vous souleviez ça, parce que quand je lis les textes que je suis en train de produire, je vois quand même un fil conducteur, une continuité. D'une certaine façon, tu sais, on pourrait trouver ça un peu décourageant, parce que ça fait 30 ans que je dis la même affaire, là. Mais oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a des idées là-dedans qui remontent au manifeste des lucides. Il y a des idées qui remontent à toutes sortes de rapports puis d'études que j'ai faites. Il y a même des idées qui remontent là-dedans à l'époque où j'étais président du Conseil du Trésor dans les dernières années du gouvernement de Bernard Landry et où j'avais dit à voix haute, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient changer, il faudrait faire un reboot, puis certains de mes collègues ne l'avaient pas trouvé drôle. Alors oui, effectivement, je reprends là-dedans des choses que je dis depuis longtemps, mais bon, ben c'est ça.
OK, parfait. Commençons, plongeons. D'entrée de jeu, vous faites le constat qu'on fait souvent ici, à Radio X, il y a beaucoup de monde au gouvernement, puis là, vous arrivez quand même avec des chiffres. 624 711 personnes travaillent à temps plein au gouvernement, c'est peut-être même plus que ça à l'heure actuelle, parce que vos chiffres datent de 2024-2025, une hausse de 22,3% depuis 2018, alors que la population, elle, a augmenté de 8%. Mais tout de suite après, vous écrivez « Des coupes à la tronçonneuse feraient plus de dégâts qu'elle ne réglerait de problème. » Pourquoi?
Oui, ben, c'est-à-dire que je considère quand même que parmi les embauches des dernières années, il y en avait beaucoup qui étaient justifiées. C'est sûr que dans le réseau de la santé, il y avait un essoufflement, il fallait une nouvelle énergie. C'est sûr que dans le monde de l'enseignement, il y a encore une pénurie de profs. Donc, plusieurs de ces embauches étaient tout à fait justifiées. Maintenant, bon, c'est vrai que on a vu, puis là, je rentre pas dans tous les détails, on a vu augmenter beaucoup le nombre de cadres, le nombre de gens qui coordonnent beaucoup plus que le nombre des gens en première ligne qui donnent des services directs. Donc oui, certainement, il y a un travail là-dedans de dégraissage, faut se mettre au régime un petit peu là-dedans. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que je partage cette impression que le Québec craque de partout, que plus rien ne marche. Et moi aussi, dans mon salon, je chiale. Mais je me suis dit, on peut verser dans le cynisme, dans le dépit, dans la morosité. On peut continuer à entretenir cette idée qu'on n'est plus capable de rien réussir. Mais moi, je refuse ça. Je refuse cette espèce de fatalisme. Je refuse cette espèce de version 2.0 du Québec qui serait supposément amenée pour un petit pain. Je pense qu'on a déjà réussi des grandes choses et qu'on peut se ressaisir. Et donc, j'apporte ma modeste contribution en mettant sur papier des idées. Et puis, bon, ben, comme on est à la veille d'une campagne électorale, je me dis, ben tiens, c'est une espèce de buffet, et si tous les partis peuvent piger là-dedans, ben tant mieux. Et je prétends pas que je pour parler comme ça, Mamad, que je réinvente la roue à trois boutons, là, hein. Il y a des idées là-dedans qui circulent dans le paysage public depuis longtemps. Et bon, ben, c'est
par Éric Duhaime. Éric Duhaime en reprend plusieurs. Ben, tu sais, quand vous dites faut chialer, moi, je pense qu'il faut continuer de chialer. Je suis d'accord avec Martineau là-dessus, qui vous a répliqué. Mais au-delà de chialer, nous, on a cru à un moment donné certaines personnes. Parlons de François Legault, par exemple.
Ouais.
On a cru en son livre. On a cru, moi je me souviens très bien de sa sortie au PQ quand il a dénoncé les vaches sacrées. Vous vous en souvenez, M. Facal?
Oui.
Donc, lui arrive au gouvernement, a les moyens, il s'est donné les moyens. En fait, il y a une majorité, donc à ce moment-là, moi j'appelle ça se donner les moyens de. Mais ça a complètement foiré et il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis et de ce qu'il avait écrit. Donc, c'est pour ça que les gens sont désabusés.
Oui. Mais ça, il y a eu oui. Jean Charest et sa réingénierie de l'État qu'il n'a jamais faite, là.
Aussi.
T'as les deux back-à-back, là. Legault puis Charest.
Donc, ça vient de là, je pense, M. Facal.
Bien sûr,
À l'origine. Puis je suis persuadé que vous avez été déçu également de François Legault, même si vous ne l'écrivez pas nommément, là.
Ben oui, non, j'ai été déçu de François Legault comme... J'avais osé écrire jadis dans la réingénierie de Jean Charest et de Monique Jérôme Forget. Il y avait là-dedans de bonnes idées. Dans les dernières années du gouvernement Landry, quand j'étais encore là, j'avais moi-même proposé un plan de mise au régime du gouvernement. Bon, ça n'a pas marché, ça non plus. Alors oui, je comprends très bien que des couches de dépit puis de cynisme s'accumulent parce que les partis promettent beaucoup et livrent beaucoup moins. Maintenant, bon, tu sais, c'est quoi l'alternative? C'est de rester dans notre salon à chialer puis à se contenter juste de regarder le hockey? Non, tu sais. Ah, d'ailleurs, en passant, le chialage, je suis pas contre le chialage, Dominique. Là.
Oui.
C'est un rôle essentiel des médias et je chiale, moi aussi, en masse. Je dis juste, c'est pas suffisant. Au-delà de ça, il faut brasser des idées.
Oui, mais ils ont juste à le faire, comprendre. M. Facal. Prenons l'exemple de Drainville qui a fait une sortie durant la campagne au leadership qui dit « J'avais des bonnes idées, mais les barbichettes à l'édifice G m'ont bloqué, les bureaucrates bloquent. » Et vous l'avez vécu également.
Il y a
ce qu'on appelle, il y en a qui l'appellent le deep state, l'état profond, appelez ça comme vous voulez, les hauts fonctionnaires, les forces du statu quo. Vous le savez très bien. Qui freine le progrès? Parce qu'au final, vous lancez des idées et on y arrive. Mais qui freine? Quels sont les apôtres de l'immobilisme? Est-ce que c'est le deep state? Est-ce que ce sont les syndicats québécois?
Je suis bien content que vous souleviez la question de qui bloque. Ma réponse, c'est un peu tout le monde. C'est-à-dire que chaque être humain, qu'il soit citoyen ou qu'il soit dans la machine, chaque être humain a ses intérêts. Et chacun défend son carré de sable, chacun défend son steak. Quand on rencontre nos concitoyens et qu'on leur dit « Ah, c'est le temps de faire le grand ménage », tout le monde est pour le grand ménage, en autant qu'on ne touche pas à ses affaires. Autrement dit, à peu près tous les Québécois, d'une manière ou d'une autre, reçoivent un chèque ou profitent d'un service subventionné.
Monsieur Facal a dans sa famille un fonctionnaire, mon beau-frère est un fonctionnaire, la sœur de l'autre,
etc. Et donc, quand vient le moment de prendre des décisions difficiles, on veut donc que ça commence par le voisin. Parce que le voisin, lui, a des privilèges. Moi, j'ai des droits. Donc, touchez pas à mon petit programme. Tout ça, ça crée, au fil des générations, par sédimentation, couche après couche, ben ça crée effectivement une inertie bureaucratique. Mais c'est pas juste les machines, c'est aussi nous, comme citoyens.
Vous avez raison.
Je donne un exemple.
Les Québécois veulent aller au ciel, mais veulent pas mourir.
Ben
allez-y.
Voilà. Quand viennent les élections, est-ce qu'on est capable de dire non, je ne voterai pas pour lui ou elle parce qu'il promet la Lune. Je vais plutôt voter pour celui qui promet modestement qu'il va nettoyer, réparer, entretenir, faire de son mieux. Pourquoi, Dominique, à chaque élection, les partis promettent mer et monde? Parce que
Est-ce que ça marche? C'est pour ça. Donc, pour c'est pour ça que Mme Fréchette promet d'enlever les taxes épinotes?
Oui, les muffins et la salade. Ben, c'est ça.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'ailleurs? Je veux votre opinion là-dessus.
Je suis tout à fait d'accord avec Mario Dumont quand il dit qu'il faut commencer par bien nommer les affaires. C'est pas une dépense, c'est un revenu dont elle se prive. Maintenant, bon, pour le reste, c'est de la vieille politique.
Ben oui, un chèque.
Tu as devant toi un portrait qui te dit quelles clientèles sont sensibles à quoi, et là, tu donnes un petit peu de nanane ici et un petit peu de nanane là, en espérant grappiller des votes. Je trouve ça désolant, mais en même temps, je suis la personne la moins étonnée du monde, parce que c'est ce que font pas mal tous les gouvernements qui sont en fin de régime et qui sont aux prises avec de mauvais sondages.
C'est pour ça, M. Facal, qu'on est désabusé par rapport au processus politique, et il y a un désenchantement, et il y a du cynisme aussi. C'est, à quelque part, c'est comme une danse macabre, dans la mesure où il faut dire que on veut aller au ciel, mais on veut pas mourir. Bon, ça, c'est les Québécois, on veut les programmes, mais on veut pas... Bon, parfait. Mais de l'autre, vous avez quand même une classe politique qui ne fait pas le travail et qui retombe dans ses vieilles ornières. Donc, à ce moment-là, ben, on tourne en rond. Je veux qu'on plonge dans vos idées, OK? On va y aller, OK. Donc, vous voulez pas couper, mais moi, je trouve que vous y allez en périphérie, puis vous voulez, à mon avis, un peu ménager la chèvre et le chou quand vous dites, par exemple, dire radio bonnie, limiter la structure étatique, imposer des quotas d'employés, évaluer régulièrement les programmes. Il me semble qu'il y a eu déjà des tentatives de et des tentatives de. C'est une succession d'avortons. Là. On a tenté et tenté. Vous en dites quoi?
Ben, c'est-à-dire que s'il y avait des solutions miracles, s'il y avait des solutions faciles, croyez-moi, on les aurait trouvées. Il faut pas oublier une chose, là. Si vous mettez ensemble la santé et l'éducation, ben, ça fait quasiment les trois quarts du budget de l'État.
Vous avez raison.
Et ces gens-là donnent des services essentiels et sont même déjà à bout de souffle. Alors, évidemment, ben oui, il y a des tas de choses qu'il faudrait corriger. Moi, j'en reviens, par exemple, juste pas. Ça fait 30 ans que j'entends parler de l'informatisation des dossiers médicaux. On est encore rendu à l'ère du fax. Bon, ça, je comprends ça. Mais pour le reste, est-ce que il y a des dizaines de milliers de gens à mettre à pied? Non, je pense pas. Maintenant, oui, il y a effectivement un appareil d'État qui s'est encrassé, qui est devenu complexe.
Plongeons dans la santé, si vous permettez, Monsieur Facal. Plongeons. Oui. Je sais que vous faites un striptease, en quelque sorte, de vos idées. Là, on voit les chapitres qui s'en viennent pour le reste de la semaine. Mais je vais me permettre de lever le voile ou vous leverez le voile vous-même sur votre chapitre sur la santé. Qu'est-ce que vous allez écrire sur la santé? Non, mais c'est plus de la moitié du budget. Comment qu'on parlait des affaires municipales le matin ou de la culture, au final, on ne réglera pas grand-chose. Vous l'avez dit, c'est le gros du gros. Allez-y.
Mais je pense que le journal ne serait pas content si je le texte sur la santé vient dans quelques jours. Mais en passant, parce que je vous trouve sympathique, je vais quand même vous donner deux mini-scoops. Une chose qui me frappe quand on débat de ces questions-là, c'est à quel point des gens entretiennent des illusions et se cramponnent à des solutions faciles. Par exemple, nous savons que dans le système de santé, il y a d'un côté des gens qui ont de la misère à obtenir un rendez-vous, mais de l'autre côté, des gens qui sont abonnés à des rendez-vous qui vont d'une consultation à l'autre. Et souvent, on dit « Ah, il faudrait leur imposer un ticket modérateur ». Ça roule dans le paysage public québécois depuis des décennies.
Comme si on Castonguay, entre autres, l'avait suggéré.
Il faut savoir qu'il y a une loi canadienne sur la santé qui interdit ça, les tickets modérateurs. Quand on parle, par exemple, de faire plus de place au privé, moi-même, il m'est arrivé excédé, impatienté d'avoir recours à une clinique privée.
Êtes-vous membre d'une clinique privée?
Et je paye pour quand j'en ai besoin, ben effectivement, oui. Et je considère pas que c'est diable. Mais, attention, beaucoup de gens disent il faudrait qu'on puisse s'assurer pour des services de santé privés auprès d'une compagnie. Ben ça aussi, c'est interdit par la loi canadienne sur la santé.
Ouais, qui, non, mais là, le jugement Shaouli permettait quand même une ouverture beaucoup plus grande que ce que Philippe Couillard a fait.
Oui, oui, mais le jugement Shaouli n'a jamais été mis en application et la loi, la loi canadienne dit qu'il y a un seul assureur, c'est l'État. Et une province qui voudrait déroger à ça perdrait les transferts financiers qui, dans le cas du Québec, s'élevaient à 12 milliards de dollars.
Okay, mais moi, je pense qu'il faut faire preuve d'innovation dans un cas de crise. Moi, je suis pleinement d'accord à ce qu'on maintienne l'universalité. Pleinement d'accord, mais les services, la prestation de services... Oui, et c'est ce que suggère Duhaime, d'ailleurs, puis c'est pas parce que c'est Duhaime, c'est Duhaime. L'idée est bonne. Prestation de service devrait être assurée par le privé, faite par le privé, mais payée par le public. Avec les impôts qu'on paye, tout le monde devrait avoir droit à des services de qualité, mais donnés par le privé avec des hôpitaux qui seraient en compétition. Comme on voit aux États-Unis, où hey, notre salle d'urgence, il y a juste 10 minutes d'attente. L'autre en face, hey, nous autres, c'est 8. Autrement dit, on est... un client, on est une source de revenus pour ces...
Je suis entièrement d'accord qu'il faut innover et expérimenter des nouveaux modes de livraison des services publics. Si vous allez en Europe, vous voyez effectivement que des paquets de choses, tant en santé que, par exemple, en transport en commun, sont assumés par le privé qui a des ententes avec le gouvernement. C'est tout à fait possible. Maintenant, il faut être imaginatif. Et c'est vrai qu'au Québec, on s'est en quelque sorte encrassé et qu'on est dû pour, appelle ça un reboot, un nouveau départ, une mise au point ou que sais-je.
Ça prend une révolution.
Ça prend une révolution à ceci près que la révolution tranquille de Jean Lesage et d'une certaine manière le premier mandat de René Lévesque, ça c'était à une époque où l'État pouvait beaucoup dépenser. Aujourd'hui, dans une situation financière beaucoup plus serrée, j'ai l'impression que la révolution tranquille, ça va être plus, si tu veux, de la réparation, de l'entretien, de la rigueur. Et j'admets que c'est pas particulièrement sexy. Maintenant, bon, là, on a une responsabilité citoyenne. Est-ce que les gens seraient capables, seraient prêts, seraient désireux d'appuyer des gens qui feraient une sorte de pari de la vérité? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse.
Le seul, c'est Duhaime. Le seul, c'est Duhaime, là. Êtes-vous capable de l'admettre?
Je trouve qu'Éric a de très bonnes idées, mais quand on est à 10, 11, 12 % dans les sondages, on a davantage de marge pour lancer des idées audacieuses. Chez ceux qui risquent plus de prendre le pouvoir, d'une certaine façon, je suis prêt à comprendre qu'ils soient davantage prudents. Maintenant, je m'attends, j'espère en tout cas, que peut-être pas la CAQ, parce que la CAQ, d'une certaine manière, est un petit peu épuisée et je pense franchement qu'elle est au bout du rouleau, mais j'espère que les deux principaux compétiteurs, challengers pour le pouvoir, PQ et libéraux, j'espère
sont là de défendre le modèle.
J'espère qu'ils vont avoir des idées un peu innovatrices. Là. Je vois quand même, je vois arriver une nouvelle génération d'hommes et de femmes en politique. Et comme je disais au début
de la conversation... Ils veulent garder le pouvoir, M. Facal, ça, là-dessus...
Non, ils veulent le prendre,
Garder ou le prendre, peu importe. Non, mais ils veulent garder leur mainmise dans le paysage dominant, je vais le dire comme ça. Au moins... Duhaime a l'audace de... Puis là, quelque part, on dit il y a juste 11 %, mais à un moment donné, on peut pas tuer l'enfant on peut pas tuer l'embryon dans la mesure où il y a une réflexion, il y a une audace là-dedans. Mais les deux autres, on viraille autour de... Tu sais, il va falloir couper dans le gras à un moment donné parce qu'il y a un déficit structurel qui est quand même épouvantable. Oui. Et selon la cible même de Girard, qui sera plus là aux prochaines, espérons-le, mais il faut couper 2 milliards. C'est l'État est au bord de la faillite. Ça, j'exagère pas, M. Facal, en disant ça, là, quand même. On est au bord de la faillite. On est au bord de la banqueroute.
Disons qu'on n'a pas vraiment les moyens de se payer trop d'excès. Effectivement.
Mais ça va faire mal. Bon. Il faut que ça fasse mal. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Monsieur Facal, on n'a pas le choix.
Oui, on va devoir effectivement prendre des mesures difficiles, mais je suis convaincu qu'il y a moyen, de faire ça de manière civilisée, de manière humaine, de manière rationnelle, et on verra. Moi, d'une certaine manière, je suis devenu un peu un observateur
comme nous tous. Nous sommes des observateurs qui subissons. On subit.
Mais très franchement, je dois vous dire que ayant été à l'intérieur de l'appareil, je me retiens de les critiquer trop durement parce que je sais aussi à quel point c'est extrêmement difficile, à quel point ils vivent toutes sortes de contraintes. C'est pas facile.
C'est un monstre.
Alors, avant de leur jeter la pierre, je me rappelle que j'ai déjà été là et que c'est vraiment très difficile.
L'État est un monstre.
Dans le contexte actuel, quand quelqu'un me dit qu'il songe à faire le saut en politique, je le remercie et je le félicite au lieu de lui jeter encore un autre seau d'eau froide sur la tête.
Ah non, on a besoin effectivement de gens qui sont courageux. C'est quasiment... C'est quasiment du courage que ça prend, sans exagérer.
Il y a beaucoup de gens là-dedans, et je crois honnêtement que nos concitoyens ne le réalisent pas. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui font des sacrifices familiaux, qui font des sacrifices financiers considérables, parce qu'ils ont une réelle conviction, ils ont un réel désir d'apporter une contribution. Et bien entendu, le résultat est rarement... jamais à la hauteur. Et bien sûr, on a tous des déceptions, du dépit. Mais l'alternative, c'est quoi? C'est consentir au déclin tranquille du Québec? Moi, je dis non. Alors, je propose modestement des idées, puis on fera des débats, puis on verra.
Monsieur Facal, ça a été un plaisir. Merci.
Merci. Salut. Bye-bye.
8h27. Bye. Ouais, ça va prendre l'audace. Ça va prendre beaucoup d'audace. Éric se présente aujourd'hui. En fait, c'est la confirmation de la candidature de Duhem dans le comté de Bellechasse. On va à la pause et on vient.
Morin.
Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.